je ne prendrai pas forcément un texte particulier pour la méditation. On va plutôt lire quelques bribes de textes ça et là. Je m'adresserai plus particulièrement aux chrétiens, aux chrétiennes, mais vous savez que la parole de Dieu, finalement, parle à tous. Surtout s'il s'agit d'amener une âme perdue à Jésus par la foi. Ce mercredi soir qui vient, nous continuerons à regarder ensemble ce deuxième épisode, le deuxième épisode de cette mini-série, appelons-le comme on veut, concernant les recommandations ou les commandements que le Seigneur Jésus a laissés à ses disciples avant qu'il soit arrêté et crucifié. Il était dans la chambre haute, il s'est adressé à ses disciples et il leur a laissé un certain nombre de commandements qui se comptent sur les doigts des deux mains. Et mercredi, il y a 10 jours en arrière, nous avions regardé ensemble les 3 premiers commandements, ou les 3 premières recommandations que Jésus a laissées à ses disciples. Et pour mieux les retenir, ces 3 recommandations, ces 3 commandements, on avait suggéré le fait d'utiliser un verbe à l'infinitif par recommandation. Alors, ceux qui étaient là s'en souviennent. Le premier commandement était « aimer ». On résume par un verbe à l'infinitif, aimer, pour aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le deuxième commandement a été garder, comme si vous m'aimez, alors gardez vos commandements. Et le troisième était demeurez en moi, pour en fait, si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. Demeurez. Donc aimer, garder et demeurer. Et on peut dire sans difficulté que le premier des commandements fait partie du socle sur lequel tous les autres commandements s'appuient et n'existeraient pas, finalement, si le premier n'était pas là, aimé. Et j'aimerais donc ce matin regarder avec vous un pan de cet amour que le Seigneur nous demande d'avoir les uns pour les autres, une partie, car lorsqu'on veut définir ou expliquer ou développer la notion de l'amour, c'est infini, n'est-ce pas? On peut parler des heures et des heures, des jours et des jours, des mois et des mois, sans que cela se termine. Mais j'aimerais ce matin regarder ce que signifie aimer dans le sens d'accepter l'autre tel qu'il est, avec ce désir au fond de soi également de voir sa progression. Et s'il est chrétien, de désirer sa croissance spirituelle. C'est ça, aimer. C'est d'abord accepter l'autre tel qu'il est. J'aimerais qu'on courbe les têtes un instant. Seigneur, tu as pourvu en Jésus-Christ à tous nos besoins et la source de cela, c'est avant tout ton amour pour nous. Et en regardant cet amour, tu nous donnes, Seigneur, un exemple de ce que l'amour peut être dans nos relations les uns avec les autres. Te prions que à travers ta parole ce matin, même si cela restera incomplet ou partiel, tu nous montres ce que tu attends de tes enfants que tu as sauvés et en qui tu as installé ton amour pour toujours. Donc merci Seigneur pour toutes ces révélations dans ta parole qui nous permettent jour après jour de progresser avec toi, de progresser dans ton amour et de progresser également dans notre amour que nous pouvons porter les uns envers les autres. Que ton nom soit béni, assiste-nous par ton esprit ce matin à comprendre ces choses de mieux en mieux. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Alors, au cours de son mémorable entretien avec Jésus quelques jours après l'avoir renié, l'apôtre Pierre, eh bien, était revenu à lui repentant. Et il a compris à ce moment-là combien le Seigneur l'aimait. Et même combien il l'aimait profondément, comme jamais il l'aurait pensé avant, comme jamais il ne l'a pensé avant. Et pendant les quelques jours avant cette rencontre où il était totalement perturbé, plongé dans un profond désarroi à cause de ce qu'il lui avait fait, puisqu'il l'avait renié à trois reprises. Alors, il a dû se dire que le Seigneur ne devait plus l'aimer, vu ce qu'il lui avait fait. Si je devais faire du mal à quelqu'un, ce quelqu'un serait en droit de ne plus m'aimer, n'est-ce pas ? Pour le mal que j'aurais pu lui faire. Ça, c'est l'homme naturel qui ressurgit en nous lorsque les choses ne vont pas bien dans nos relations. Le Seigneur ne devait plus l'aimer après ce qu'il lui avait fait. C'est ce que très certainement l'apôtre Pierre pensait après l'avoir renié à trois reprises. Et l'amour humain, parce qu'il est entaché de péché, est naturellement ainsi fait qu'il se manifeste envers l'autre dans l'amour lorsque les conditions sont réunies, et il se manifeste à l'autre de manière contraire lorsque les conditions ne sont pas réunies ou plus réunies. Ça, c'est l'amour humain. Et jusque-là, l'apôtre Pierre croyait que Jésus l'aimait parce que il était un serviteur fidèle. Jésus l'aimait parce qu'il avait tout abandonné. Rappelez-vous les premiers versets du début de chaque des évangiles où chaque disciple laissait son travail, laissait son environnement pour suivre Jésus. L'apôtre Pierre pensait que Jésus l'aimait parce qu'il avait tout abandonné pour lui. Il croyait que Jésus l'aimait, on peut penser un tas de choses, parce que. L'être humain est ainsi fait sur le regard qu'il porte sur l'amour. L'amour méritant, l'amour mérité de l'autre. Et nous-mêmes, nous avons fortement cette tendance à le croire, n'est-ce pas ? Si une jeune fille se fait belle pour son fiancé ou son futur mari, elle le fait parce qu'elle croit qu'il va davantage l'aimer si elle apparaît comme plus belle à ses yeux. Alors c'est pour ça qu'elle le fait. Et le mari, sachant qu'il a plein de défauts, est conscient que s'il ne change pas, il peut perdre l'amour de sa femme. C'est comme ça que ça se passe dans le monde aujourd'hui. Même peut-être chez les chrétiens. Dans les faits, être aimé et accepté est un besoin universel. À tel point qu'il y a beaucoup de gens dans notre monde qui ont senti le filon et profitent de ces situations pour proposer, vous savez, des remèdes de miracle pour qu'on s'en sente mieux dans sa peau et qu'ainsi, on pense que dans nos relations, les autres vont davantage nous aimer. Et on a plein de situations de cette façon qui apparaissent comme ça aujourd'hui. Et je dirais que c'est malheureux, mais c'est ainsi. L'homme est ainsi fait. Si vous avez un excès de poids, Ou si vous pensez que votre nez est un peu de travers, pas de problème, c'est pas grave. J'ai une solution miracle à vous proposer. Et ça va vous permettre, au bout de quelques semaines, de vous sentir mieux et peut-être de croire qu'on va mieux vous aimer. Et tu seras de nouveau aimé et accepté si les choses vont mieux de cette façon. Mais pourquoi tant d'agitation, finalement, tant d'agitation intérieure dans nos cœurs, dans nos pensées? Sinon, parce que être aimé et accepté sont des réalités pour nous qui sont conditionnelles. Je t'aime seulement parce que il y a telle situation. Et aujourd'hui, on voit, même je lisais ça, c'est surtout aux États-Unis, mais ça arrive en France, et de plus en plus, des croyants qui passent par la chirurgie esthétique. Alors, si vraiment il y a quelque chose de très grossier, et peut-être il faut envisager, mais ça c'est davantage médical, mais simplement pour l'esthétique, eh bien, on peut en arriver là si on entretient des pensées qui ne sont pas celles de la parole de Dieu. On a besoin, eh bien, oui, d'être aimé et d'être accepté par l'autre. C'est un besoin universel, on le conçoit. Et la peur du rejet, cette soif intérieure que l'on a, fait partie de notre être profond et y apporter une réponse. Souvent, nous y apportons nous-mêmes des réponses superficielles pour que les choses, pense-t-on, iront mieux pour nous. Je t'aime aujourd'hui parce que tu as 63 ans, ça c'est l'âge de ma femme. Mais c'est pas forcément garanti parce qu'avec l'âge, c'est conditionnel. C'est souvent comme ça que l'homme pense, n'est-ce pas? On fait souvent cette blague à la maison où l'on dit peut-être qu'un jour j'échangerai ma femme de 60 ans pour deux de 30. Ah oui, mais il y a du vrai, il y a un peu de vrai dans cette manière de dire les choses et dans sa propre pensée, très souvent. Alors on va essayer de rester jeune, ça passe mieux pour se faire embaucher, vous le savez. Quand on est vieux, on n'est pas embauchable, ou c'est beaucoup plus difficile. Et puis, l'amour du conjoint, pense-t-on, n'est pas forcément garanti pour toute la vie. Parce que l'amour est souvent conditionnel. Bref, il y a bien des exemples de la vie qui montrent et démontrent que être aimé et accepté doit être entretenu, doit se travailler et doit se mériter. N'est-ce pas vrai? Dans nos pensées humaines. Quel mensonge de l'ennemi, frères et sœurs, quel mensonge de l'ennemi qui prive les hommes du véritable amour qu'ils peuvent avoir les uns envers les autres, qui les prive également de paix et de vraie sécurité. Et face à ce besoin humain qui est bien légitime, est-ce que Dieu nous apporte une réponse concrète? C'est ça que j'aimerais regarder. Eh bien oui. On va le voir tout de suite. Et puis, dans un deuxième temps, j'aimerais que nous regardions également quel doit être dans son témoignage, dans son attitude, ce que doit être l'attitude de l'Église, donc des frères et sœurs, des membres des Églises, et qui doit se faire en particulier l'écho de ce message divin pour communiquer un amour qui soit vrai et authentique comme le Seigneur le veut. Alors, on va prendre ensemble Éphésiens chapitre 1er, dans un premier temps. Dans la réponse de Dieu, nous y voyons d'abord, et ça change tout, la révélation d'un amour inconditionnel envers nous. La révélation d'un amour inconditionnel, donc qui s'est traduit en particulier par la manifestation de plusieurs preuves d'amour. J'aimerais en regarder quatre avec vous ce matin. Alors je vous l'accorde, c'est incroyable à imaginer, parce que nous, dans notre manière de penser humaine, c'est tout le contraire, hein, n'est-ce pas ? Et le terme amour, lorsqu'il est employé pour Dieu et en direction des hommes, est avant tout un acte volontaire, désiré, décidé, déterminé et souverain, dont le but est de faire du bien à sa créature, quel que soit ce qu'il en coûte. Donc Éphésiens chapitre 1, et puis nous lirons les versets 3 à 6. Et essayez peut-être à la première lecture de voir ce dont nous allons parler. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Dieu a choisi de toute éternité passée, dans un acte, je l'ai dit, volontaire, déterminé, souverain, il a choisi d'élire tous ceux qui, un jour deviendront de manière concrète ses enfants, et il l'a fait non pas parce que nous sommes, et on va parler de nous, nous sommes des exemples à suivre, non pas parce que nous sommes plus acceptables que les autres, non pas parce que nous sommes plus beaux, non pas parce que nous sommes jeunes, non pas parce que, il n'y a pas de condition. Dieu a éli ses enfants, qui deviendront ses enfants par la suite. Il les a choisis de toute éternité passée dans un amour inconditionnel. C'est son choix. Et il l'a fait de manière délibérée. Et cela parce que c'était le bon plaisir de sa volonté qu'il en soit ainsi. La source donc du dessein électif de Dieu à notre sujet procède de son amour inconditionnel pour nous. Il nous a prédestinés dans son amour, on vient de les lire, à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. C'est la première preuve d'amour. C'est de nous révéler à travers la parole de Dieu que de toute éternité passée, eh bien, il a choisi d'élire ceux qui, un jour, des siècles plus tard, etc., allaient devenir ses enfants d'une manière pratique lorsque ses enfants s'approcheront un jour de Jésus-Christ par la foi. Et si c'est le cas ce matin, eh bien, il faut se dire que, effectivement, si aujourd'hui je suis chrétien, si je le suis devenu il y a peut-être quelques années en arrière, c'est parce que Dieu m'a élu dans l'éternité passée pour que je devienne un jour son enfant. Et il l'a fait dans un amour qui est inconditionnel. Pas parce que je suis mieux qu'un autre, non, rien du tout de tout cela. C'est parce qu'il l'a choisi ainsi. Alors, il y a un autre passage connu, Romains chapitre 8, maintenant. Alors, cela ne dépend pas de moi, tout dépend de lui, hein, n'est-ce pas ? Cela ne dépend pas de ma beauté, cela ne dépend pas de mon intelligence, cela ne dépend pas de ma couleur de peau, cela ne dépend pas de mon âge ou quoi que ce soit d'autre. Son amour inconditionnel pour moi qui a fait qu'il m'a choisi dépend de lui et de lui seul. Alors, prenons un autre passage, Romains chapitre 8, verset 29. Romains chapitre 8. Alors, ça fait plaisir de voir Zawa et les enfants. Romains chapitre 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de plusieurs frères. Ceux qu'il a connus d'avance. Et vous savez peut-être que connaître dans la Bible a un sens tout à fait différent que celui que eh bien, on utilise aujourd'hui dans le langage courant. On l'utilise plutôt dans la parole de Dieu pour faire état d'une relation intime et profonde entre deux personnes ou entre plusieurs personnes. On l'utilise notamment dans le cadre du mariage entre un homme et une femme. Pour des relations intimes, on dit que l'un a connu l'autre, ou l'inverse. Et donc, c'est une connaissance profonde de la personne que Dieu a, de toute éternité passée, non pas pour ce qu'elle est dans son identité, ou parce que peut-être il sait à l'avance que ça allait être quelqu'un de bien, mais dans son amour inconditionnel, il choisit de toute éternité de d'élire cette personne que je suis si je suis un jour devenu chrétien et si je le suis aujourd'hui. Et cet amour profond et inconditionnel qu'il a pour tous ses enfants, indépendamment de leur acte, indépendamment de ce qu'ils sont, eh bien, il les choisit de telle façon que, il les amène également, c'est ce que nous dit ce passage, Romains 8, 29, dans la présence de sa gloire, lorsque le moment sera prévu. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, verset 30, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. L'amour inconditionnel de Dieu se voit, nous est révélé à travers la doctrine de l'élection basée sur l'amour inconditionnel de Dieu pour chacun de nous. Alors, il y a, dans ces conditions, j'aimerais donner deux vérités qui prédominent. On en est toujours à la première preuve d'amour. Il y en a quatre. La première qui prédomine, et tout le monde doit le savoir, c'est que les élus de Dieu sont aimés et acceptés tels qu'ils sont. Et d'ailleurs, nous l'avons lu tout à l'heure. Paul avait dit à haute voix qu'il était un blasphémateur, qu'il était un homme violent, qu'il était un persécuteur de l'Église. Et pourtant, Dieu, en Jésus-Christ, l'a accepté et reçu tel qu'il est, tel qu'il était. Et seulement ensuite, il l'a changé, fait progresser, il l'a sanctifié. Mais au départ, il l'a reçu tel qu'il était. Il n'a pas fait de différence avec d'autres. Il aurait pu choisir des gens bien, non ? Il a choisi Paul, qui était le pire des pécheurs. Son amour inconditionnel s'est exercé parce que de toute éternité passée, il connaissait l'apôtre Paul en tant que personne. Et il avait décidé, dans sa souveraineté, de l'élire pour qu'un jour, il devienne son enfant. Et la deuxième vérité qui prédomine, c'est que rien avant, pendant et après nous séparera, nous dit ce chapitre de Romains 8, nous séparera de l'amour inconditionnel de Dieu, quel que soit ce qui peut se passer avant, pendant ou après notre vie sur cette terre. Ça, c'est une preuve d'amour, n'est-ce pas ? D'aimer de manière inconditionnelle. L'apôtre Pierre ne savait pas, et il ne savait pas tout ça. Lorsque, il a péché en reniant le Seigneur à 3 reprises. Et il pensait que Jésus ne voulait plus de lui. Il pensait que Jésus était capable, dans ces conditions, de l'abandonner, de le laisser, dans son désarroi. Et ça, c'est terrible. Et une fois que le Saint-Esprit avait fait sa demeure dans le cœur de Pierre, lorsque Jésus l'a rétabli, alors l'apôtre Pierre va dire ceci, et j'aimerais le lire avec vous, 1 Pierre chapitre 1er. Parce que là, il a compris que Jésus l'aimait d'une manière inconditionnelle, malgré ce qu'il lui avait fait. Alors, c'est dans 1 Pierre chapitre 1er. Et on peut lire des versets 3 à 5. Bienvenue, Sifax. 1 Pierre chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Voilà, il a maintenant l'apôtre Pierre, et il veut le partager aux chrétiens, cet état de fait que par la puissance de Dieu, nous sommes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Ça veut dire qu'à un moment donné, oui, Dieu avait accepté l'apôtre Pierre tel qu'il était. Et ensuite, il l'a sauvé, transformé par l'Esprit divin. Et il l'a, au fur et à mesure du temps, fait progresser dans la sanctification, de telle sorte que, il se sache prêt ensuite pour aller dans la gloire de Dieu quand le temps serait venu. Et ça, l'apôtre Pierre a voulu le partager. Il avait compris que malgré les chutes, malgré les infidélités, malgré les désobéissances passagères, et ça c'est nous, n'est-ce pas ? C'est la puissance de l'amour de Dieu qui l'a gardé, lui, et qui nous garde également, nous tous. On peut ajouter également que cette merveilleuse vérité qu'est l'élection divine doit entraîner inéluctablement la foi de ceux qui sont élus. Regardez avec moi Actes chapitre 13. Le plan de Dieu est merveilleux. Lorsqu'il dit, lorsqu'il annonce, lorsqu'il fait, tout se passe à merveille et de manière dans la perfection même. Actes chapitre 13. Alors que Paul et Barnabas annoncent l'évangile à des non-juifs, qu'on appelle des païens. Et ces païens reçoivent la parole de Dieu, et regardez au verset 48, Actes 13, 48, les païens se réjouissaient en entendant cela. Et ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tout ce qui était destiné à la vie éternelle crurent. Tout ce qui était destiné. Dans le plan de Dieu, ce que Dieu a décidé de d'élire et de sauver, un jour, ça s'accomplit. Exactement comme il l'avait décidé, au moment où il l'a décidé. Ça, c'est une preuve d'amour, un amour inconditionnel. Ces païens étaient tous différents, n'est-ce pas ? Ils provenaient de toutes sortes d'endroits, ils avaient tous des défauts, etc. Et mais ils crurent, ils ont été acceptés par Dieu tels qu'ils étaient. Et c'est la deuxième preuve d'amour. La première, c'est de nous élire, de nous avoir élus d'une manière inconditionnelle, dans un amour inconditionnel. Et puis la deuxième preuve d'amour, c'est que Dieu nous attire à lui et nous fait comprendre à travers l'œuvre de la croix de Jésus-Christ qu'il nous aime et qu'il nous accepte tels que nous sommes, avec nos qualités, mais je dirais avec tous nos défauts. Et on en a, même si on ne les connaît pas. Souvent, c'est lorsqu'on finit par vivre avec quelqu'un que cette personne nous fait découvrir nos défauts. Parce qu'on n'en est pas forcément toujours conscient. Ou c'est parce qu'on vit avec d'autres et que l'on grandit avec d'autres qu'on arrive à percevoir quels sont nos propres défauts. On a certainement des qualités, mais il y a aussi beaucoup de défauts. Et le Seigneur Jésus, lorsqu'il décide de sauver, il passe l'éponge dessus, sur ça. C'est inconditionnel. Et il veut que nous faire comprendre à travers sa parole, eh bien, qu'il nous aime au point de nous accepter tels que nous sommes. Romains chapitre 5, verset 8. Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, ça regroupe quoi, ça ? C'est pas seulement le fait d'avoir une nature pécheresse en nous. C'est le fait de pécher contre Dieu tous les jours et de multiples façons. Ça fait partie des défauts. Si on peut dire. Et là, il est question plutôt de Jésus-Christ. Christ est mort pour nous, non pas parce que nous étions des gens attirants, beaux, jeunes, énergiques, ou que nous plaisions à Dieu par notre comportement, mais alors que nous le dégoûtions, Christ est mort pour nous. C'est ça, alors que nous étions encore des pécheurs. Il faut comprendre qu'il y a derrière ça une notion de méchanceté et qui peut provoquer chez les humains du dégoût dans une relation. Eh bien, le Seigneur Jésus a fait table rase de ces choses, alors que nous étions des pécheurs, rebelles contre lui, mais dans tous les domaines. Christ est mort. Pour nous, il nous a aimés et acceptés tels que nous sommes, dans un amour inconditionnel. J'ose le répéter. Il me dit, je t'aime, qui que tu sois, quoi que tu fasses. C'est beau ça. Alors il y aura certainement des conséquences à nos péchés. C'est vrai. Mais Christ nous aimera quand même et toujours. Et la preuve, c'est que nous avons lu tout à l'heure dans Éphésiens 1, et c'est là la troisième preuve d'amour. Il y en a quatre, soyez patients. Peut-être on peut reprendre Éphésiens chapitre 1, peut-être ça vous a échappé. Éphésiens chapitre 1, alors, verset 5, dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. Voilà une troisième preuve d'amour. Et il nous a adoptés, nous les méchants, nous les pécheurs, qu'il a transformés par l'Esprit du Seigneur et qu'il veut continuer à transformer progressivement et tous les jours qui passent dans la vie d'un nouveau croyant jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Il nous a adoptés dans sa propre famille, prédestinés à être ses enfants d'adoption. Et être adopté dans sa propre famille, c'est de cette façon qu'il prouve son amour et son attachement eh bien, à ces personnes qui sont en Jésus-Christ devenues ses enfants. Non seulement je suis pardonné, non seulement je suis réconcilié avec Dieu, mais je suis intégré dans la famille de Dieu. Intégré en tant qu'enfant d'adoption, je n'ai plus le diable comme père, mais j'ai Dieu comme père, désormais. Ah ! Et d'une manière inconditionnelle, il m'aime de cette façon, en m'intégrant dans sa famille. Lorsque des parents adoptent un enfant, on le voit, je ne sais pas si ici, il y a des enfants ont été adoptés, ou des parents adoptifs. Mais lorsqu'on adopte un enfant, ce n'est pas aussi simple que de le dire. Parce que cet enfant a souvent un passé, a souvent une vie, parfois un passé douloureux, avec des blessures qui sont là. Et pourtant, des parents vont décider de manière inconditionnelle souvent. Pas toujours. Mais souvent, parce qu'il voit la misère d'un enfant, eh bien, de l'adopter, de l'intégrer dans leur propre famille, et donc de l'entourer, de le recevoir tel qu'il est. C'est pas simple, mais c'est ce que des parents adoptifs font en général. Ils vont l'entourer, ils vont l'éduquer, ils vont aimer cet enfant. Et lui-même, de son côté, il va se sentir aimé. Peut-être ça n'avait pas été le cas avant, mais là, dans cette famille d'adoption, il va se sentir aimé et accepté tel qu'il est, et en plus en sécurité dans cette famille qui l'adopte. L'amour de Dieu qui nous a adoptés est de cette nature-là. Et ça, c'est formidable. Quelle preuve d'amour, c'est la troisième preuve d'amour, quelle preuve d'amour le Seigneur nous donne à travers eh bien, le fait de nous avoir adoptés en Jésus-Christ. Alors, précisons quand même que aimer de manière inconditionnelle, comme le Seigneur le fait avec nous, ça ne signifie pas qu'il apprécie toutes nos actions, nos comportements, nos paroles, mais seulement qu'il s'engage envers nous, parce que c'est un acte de volonté, à nous transformer tel que nous sommes au départ, à nous transformer, à nous changer progressivement à l'image de son Fils Jésus-Christ qui nous a aimés comme nous savons qu'il nous a aimés. J'aimerais que nous lisions Colossiens chapitre 3, versets 9 et 10. Et ça, c'est une quatrième preuve d'amour. Colossiens chapitre 3, versets 9 et 10. Non seulement il nous a adoptés dans sa famille, mais dans son amour, Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vont nous éduquer, vont nous sanctifier, vont nous faire progresser spirituellement pour que nous le connaissions mieux, pour que nous puissions avoir une relation particulière avec ce Dieu qui nous a sauvés. Ça, c'est une quatrième preuve d'amour inconditionnel. Parce que Dieu veut notre bien, il veut nous faire progresser. Parfois, nous ne voulons pas. Alors nous disons, et on va peut-être en parler, nous disons, oh, nous sommes sauvés, c'est terminé pour moi. Mais pas du tout. Si vous pensez ça, alors vous n'êtes pas sauvés. Parce que le Seigneur veut autre chose pour ses enfants. Et nous les révèle à travers sa parole. Alors Colossiens chapitre 3, versets 9 et 10 nous dit, ne mentez pas les uns aux autres. vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Voilà l'exhortation de l'apôtre Paul aux chrétiens. D'un côté, de se dépouiller de son ancienne nature, et il y a une participation active du croyant dans le salut en Jésus-Christ. Et de revêtir l'homme nouveau, celui que le Seigneur Jésus, dans sa grâce, nous a accordé par le Saint-Esprit. Nous sommes en lui une nouvelle création, une nouvelle créature, capable désormais d'aimer notre Dieu et capable d'aimer notre prochain et notre frère ou notre sœur comme le Seigneur Jésus nous a aimés. Et donc, d'aimer notre frère, d'aimer notre sœur tel qu'il est, et de manière inconditionnelle. Pas conditionnelle, mais inconditionnelle. Dieu nous aime tel que nous sommes. Et pourtant, il désire dans son amour que nous soyons progressivement changés en l'image de son Fils. C'est son plan pour nous. Et donc, il est normal que dans nos relations les uns avec les autres, eh bien, nous puissions imiter, dans une certaine mesure, l'amour que Dieu a pour nous et que nous l'imitions dans nos rapports les uns avec les autres. Cela est rendu possible aujourd'hui parce que Dieu a répandu son amour dans nos cœurs d'une manière abondante. Et donc, on est capable de reproduire, si je peux le dire de cette façon, l'amour que Dieu, en Jésus-Christ, nous porte aux uns et aux autres. Un amour inconditionnel qui accepte l'autre tel qu'il est et qui désire voir l'autre progresser dans une croissance spirituelle normale et progressive dans le temps. Alors on peut avoir cette pensée qui nous vient. Ah mais si Dieu nous aime d'une manière inconditionnelle, que nous puissions changer, être même tels que nous sommes. Alors, que nous changions ou que nous ne changions pas, Dieu nous aimera toujours. Alors, à quoi bon progresser? À quoi bon être sanctifié toujours plus dans le temps, être purifié dans sa vie, si Dieu nous aime d'un amour inconditionnel et nous accepte tels que nous sommes? Je suis sauvé. Et ça me suffit. Combien y a-t-il de chrétiens qui pensent ça? Je pense beaucoup. Un tel raisonnement a conduit depuis des décennies, voire des siècles, je pense, lorsqu'on lit des ouvrages qui en parlent, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes à mépriser la volonté de Dieu concernant la purification et la sanctification du cœur tel que Dieu le veut pour chacun de ses enfants. Au motif que Dieu ne les aimera pas moins s'il ne se passe rien dans la vie, si la personne ne progresse pas. Et il faut savoir que de tenir une telle position ou d'avoir de telles pensées nous conduit très souvent, frères et sœurs, et à la paresse, et à la passivité dans l'Église, ni plus ni moins. Et c'est, on pourrait résumer cela ainsi, de l'ingratitude et un profond mépris pour celui qui nous a sauvés et qui nous a révélé sa volonté dans le désir de nous voir progresser en lui dans la purification et dans la sanctification du cœur. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Prenez avec moi. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le fait de faire le contraire de ce qui est l'exhortation de Paul à ce stade, est un péché contre Dieu. Soyez transformés. Il y a là une exhortation à destination des croyants pour qu'ils participent à la sanctification que l'Esprit de Dieu veut faire dans le cœur de chaque croyant. Il y a là une participation également de la part du croyant. L'apôtre Paul s'adresse ici aux croyants. Et cela, le Seigneur veut nous le révéler parce qu'il désire avant tout qu'il y ait une harmonie qui s'installe dans la vie du croyant et de manière à nous préparer au ciel. Parce que le Seigneur revient bientôt. Et il veut voir, lorsqu'il reviendra, une église triomphante, pure, sanctifiée, et non pas des hommes et des femmes qui se sont satisfaits d'être sauvés et d'en être restés là dans leur vie. L'amour véritable doit non seulement accepter tel l'autre tel qu'il est, mais également désirer voir l'autre progresser dans sa vie spirituelle. Ça veut dire que lui-même a le désir, bien sûr, de progresser. Pour voir l'autre progresser dans sa vie spirituelle, c'est son désir pour lui-même, mais ça doit être son désir pour l'autre. Et voilà, en résumé, les quatre preuves d'amour, si je puis dire, de cet amour inconditionnel que Dieu nous a révélé à travers sa parole et qui est réel pour nous qui sommes devenus ses enfants. L'élection, Dieu nous a élus d'une manière inconditionnelle, dans un amour inconditionnel, première preuve d'amour. La deuxième preuve d'amour, il nous aime tel que nous sommes, il nous prend tel que nous sommes et il nous sauve en nous prenant tel que nous sommes. La troisième preuve d'amour est qu'il nous intègre dans sa famille en tant qu'enfant adopté. Et nous devenons donc un enfant de Dieu le Père. Et enfin, quatrième preuve d'amour, par ses actes incessants à notre égard, pour notre bien, il nous fait progresser. Il nous fait croître spirituellement jusqu'à ce que je puisse devenir... être dans une stature qui soit à l'image de Jésus-Christ. Quatrième preuve d'amour. Eh bien, dans l'amour véritable que nous portons les uns pour les autres, que nous devons nous porter, l'amour fraternel, que nous devons nous porter les uns envers les autres, on peut retrouver ces quatre notions. On doit retrouver ces quatre notions. C'est-à-dire cet amour inconditionnel pour l'autre. Oh, celui-là, je vais l'aimer parce qu'il me plaît. Mais celui-là, il ne me plaît pas. Non. L'amour inconditionnel. D'aimer l'autre de manière inconditionnelle dans nos relations fraternelles. La deuxième preuve d'amour, c'est d'accepter l'autre, de recevoir l'autre tel qu'il est. Bien sûr, sans désirer qu'il reste à ce stade, il y a le désir qu'il progresse, mais l'accepter tel qu'il est. La troisième preuve d'amour est que nous devons nous exprimer et témoigner les uns envers les autres, c'est le fait de se savoir ensemble dans une même famille spirituelle. Et la famille spirituelle... lorsqu'elle est bien comprise, elle se passe, elle se vit dans l'église locale, pas ailleurs, elle se vit dans l'église locale. Et la quatrième preuve d'amour que nous devons les uns aux autres, eh bien c'est que nous puissions, comme la parole de Dieu nous le dit, nous exciter ensemble à l'amour fraternel. Ça veut dire nous encourager les uns les autres à progresser dans la connaissance de Dieu, à progresser dans l'amour de Dieu, dans la foi, dans l'espérance. Et ces choses, nous pouvons le faire dans l'Église également. Et c'est ainsi, nous dit la parole, en voyant vous aimer les uns les autres, que d'autres verront, d'autres qui ne sont pas en Christ ou encore en Christ, ils verront que vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ce n'est pas seulement en disant « toi je t'aime ». Non, c'est qu'il y ait des manifestations, l'expression de cet amour dans nos relations les uns avec les autres, comme Jésus ou comme Dieu l'a fait avec nous, comme on vient de le voir. Alors, oui, c'est la première vocation des chrétiens, c'est de manifester l'amour de Dieu dans l'Église et autour de nous. La deuxième vocation, c'est aussi de vivre dans l'unité de l'Esprit, de manière à ce que dans l'Église, nous puissions progresser ensemble malgré nos différences. Et c'est ce qu'exprime Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3, qui nous dit de conserver l'unité de l'Esprit. Pas de le créer, il est déjà là, mais de le conserver, de l'entretenir, cette unité de l'esprit, malgré nos différences, et cela grâce à l'amour que nous porterons les uns pour les autres, à nous accepter tels que nous sommes, et à désirer que l'autre progresse dans la foi. Et puis, je vais prendre la deuxième personne du singulier. Si tu es chrétien, comme peut-être tu le dis ou tu l'affirmes, tu es donc intégré dans la famille de Dieu. Et ça, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mais si tu es intégré dans la famille de Dieu en tant que fils ou fille de Dieu le Père, alors tu as donc aussi maintenant la responsabilité de t'intégrer dans la famille de Dieu représentée par l'Église locale, de manière à ce que tu puisses réellement faire partie de cette famille, qu'on puisse te reconnaître comme un frère, comme une sœur, et qu'ainsi nous puissions nous aimer les uns les autres comme les frères et sœurs d'une même famille peuvent s'aimer. Et puis l'Église de Jésus-Christ doit aussi être l'endroit où chacun, sans exception, doit se sentir aimé et accepté tel qu'il est. Parce que Dieu, dans sa grâce, nous a sans condition aimés, élus, sauvés, adoptés, acceptés, prenez le terme que vous voulez, tel que nous étions. Et ça, c'est important. L'Église doit également être un lieu qui favorise les progressions. Si on n'est pas dans l'Église, on ne progressera jamais. Si vous ne venez pas le mercredi soir pour ce temps de prière qui est crucial dans la vie d'un chrétien, où nous pouvons prier les uns avec les autres, où nous pouvons étudier la parole les uns avec les autres, pour faire des remarques, pour échanger, pour nous connaître mieux. L'Église doit être un lieu qui favorise la sanctification, la purification, les progressions spirituelles, et pas simplement une simple entrevue ou une simple réunion le dimanche matin au culte. Ce n'est pas ce que Dieu veut. J'aimerais que les choses évoluent dans le bon sens, pour tous. Les réunions de prière et d'enseignement de la parole travaillent ensemble pour permettre au Saint-Esprit d'opérer cette transformation des cœurs à la ressemblance du Fils de Dieu. Ne les négligez pas, frères et sœurs. Et j'aimerais terminer par ce verset, donc dans 2 Pierre chapitre 3, qui résume un peu les choses, 2 Pierre chapitre 3, 2 Pierre chapitre 3, versets 17 et 18. Et ce passage nous dit « Vous donc bien-aimés, voyez, nous sommes des bien-aimés, et de manière inconditionnelle de la part de Dieu, mais également C'est l'apôtre Pierre qui parle. Donc, il aime également ses croyants à qui il s'adresse de manière inconditionnelle, l'apôtre Pierre. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Voilà, oui, eh bien, aimons-nous, frères et sœurs, les uns et les autres, comme Jésus lui-même nous a aimés. Voilà, prions. Merci, notre Dieu, pour ta parole qui est une lumière sur notre sentier, une lampe qui éclaire à notre chevet, à notre coucher. Béni sois-tu pour la révélation de ton amour à travers ta parole, qui est absolument inconditionnelle pour nous. Mais nous te prions, Seigneur, dans notre faiblesse, que, ayant reçu ton amour dans nos cœurs, tu puisses toujours plus nous aider dans nos relations les uns avec les autres, à nous aimer comme toi, tu nous as aimés, d'une manière inconditionnelle, de façon à ce que nous donnions avant de recevoir. Merci, notre Dieu, pour cet amour que tu as mis dans nos cœurs par le Saint-Esprit, parce que sans cela, nous ne pourrions rien faire et nous serions comme des brebis errantes. Mais tu ne l'as pas voulu ainsi. Tu as voulu nous mettre dans l'Église pour que nous formions une famille spirituelle, comme nous le sommes adoptés en tant qu'enfants de Dieu par toi, Dieu le Père. Et qu'ainsi, nous puissions voir l'édifice de Jésus-Christ, l'Église, croître d'une manière sensible pour ta gloire et pour le bien de tous ceux qui en font partie, parce que tu le veux ainsi. Te prie, Seigneur, que, parce que tu dois bientôt revenir, que ton Église soit prête à te revoir, à te recevoir, parce qu'elle aura compris ce que tu lui demandes et elle aura désiré dans sa vie faire ta volonté. Seigneur, conduis chacun à comprendre toutes ces choses que tu as bien voulu nous révéler ce matin, et que, Seigneur, ce soit quelque chose qui est un effet pratique dans nos vies, également dans nos relations les uns avec les autres. Que ton nom soit béni et que tu nous bénisses tous dans cet amour inconditionnel que tu nous portes. Au nom de Jésus. Amen.